Bonsoir. 14e émission de Qui suis-je ? Après avoir reçu Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace, et de l'actualité importante concernant la consultation citoyenne pour savoir si on devait garder l'Alsace au sein de la région Grand Est, nous allons revenir à, je dirais, une question de société qui est aussi une question d'actualité. Elle est d'actualité depuis des siècles, peut-être des millénaires, on va voir. Et c'est une question absolument vraiment importante, mystérieuse, passionnante. Et j'ai la grande chance de recevoir quelqu'un qui a ouvert les portes, les fenêtres en grand. C'est pour cela qu'il est là aujourd'hui. Je reçois Alain Brault. Alain Brault est un des plus fameux représentants de la Grande Loge Nationale Française. Nous allons parler, vous l'avez compris, de la franc-maçonnerie. Et nous allons pouvoir pénétrer ce monde qui est souvent méconnu, mais toujours absolument passionnant et qui questionne, je pense, sur les vraies questions de valeur, de société, d'humanité. Et ce n'est pas tous les jours que nous avons la possibilité de le faire. Donc, Alain Brault, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons dans cette émission deux rites. Le premier rite, c'est que je tutoie mon invité pour des raisons tout simplement fraternelles. Je le redis à chaque émission pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, c'est que le tutoiement, le vouvoiement sont mélangés en hébreu, en anglais. Il n'y a pas cette distinction qu'il y a en français. Et ce sont évidemment que des raisons d'amitié et de fraternité, qui est un mot, je crois, important dans la franc-maçonnerie. Donc Alain, si tu es d'accord, on va se tutoyer.
Cher Daniel, aucun problème. D'ailleurs, on commence bien puisque, pour faire simple, en maçonnerie, on tutoie toujours nos frères, mais on se vouvoie en interne. Comme quoi, c'est quelque chose de très curieux. Mais donc, on commence bien. Nous sommes à l'extérieur d'une loge, donc je peux te tutoyer. Il n'y a aucun problème.
Bah, génial. Et il y a un deuxième rite dans cette émission. C'est que je demande à mon invité de prononcer le titre de l'émission, « Qui suis-je ?» et de se présenter.
Alors, qui suis-je ? Alain Brault. Je vais rester donc par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire un franc-maçon. Alors aujourd'hui, je suis Alain Brault, assistant grand maître à la Grande Loge Nationale Française. Depuis quelques jours, on va dire, puisque j'étais le grand maître provincial de la région Grand Est, le grand maître m'a fait l'honneur de me nommer son assistant. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre à tes questions, tout simplement, Daniel, à cœur ouvert, il n'y a aucun problème.
Merci. Voilà. Alors on va, dans un premier temps, un petit peu te découvrir. On va plutôt d'abord parler de toi, de qui tu es, parce que tu es quand même un personnage. Hein, si on observe un petit peu sur tes réseaux sociaux et qu'on écoute un peu les gens parler de toi, tu es quelqu'un absolument de truculent, avec différentes casquettes que tu assumes. Ce mot-là, je crois, est un mot important, qui te qualifie bien. Tu es quelqu'un qui assume tes engagements et qui en parle, qui les met en avant. Et là aussi, c'est assez rarement le cas. Et ensuite, on parlera de la franc-maçonnerie. Puis on terminera avec un petit peu d'actualité. Mmh. Et une dernière question qui est un rituel que nous avons entamé la semaine dernière avec Frédéric Bierry. Sacha, notre assistant, te posera une dernière question.
Avec grand plaisir.
Alors, c'est parti. Alain, tu as quel âge ?
58 ans.
58 ans. Mmh. Tu peux me parler un peu de ton parcours professionnel ?
Alors, mon parcours professionnel autodidacte. J'ai quitté l'école à 15 ans. J'ai fait un apprentissage de chaudronnier. Je suis parti à l'armée. Je suis arrivé en Alsace à cause ou grâce à mon épouse, qui est une Alsacienne. Je ne suis pas alsacien. Je suis italien d'origine, un papa sarde et une maman sicilienne. Et donc, j'ai atterri, en Alsace un peu par hasard, sachant que, comme on dit chez nous en maçonnerie, il n'y a pas de hasard. Donc je suis en Alsace depuis 1984. Ensuite, j'ai eu un parcours, on va dire, textile. Et depuis une bonne vingtaine d'années, je suis dans l'immobilier. Ça, d'accord. C'est un parcours professionnel.
Dans le textile, qu'as-tu fait ?
Ben, j'ai travaillé pour un groupe que, je pense, les Strasbourgeois connaissent. Hein, c'est messieurs Benaroche et Oussadon,
oui.
Qui étaient des professionnels de l'immobilier, qui sont devenus, pardon, des professionnels de l'immobilier, mais qui étaient au début des commerçants dans le textile. Et j'ai commencé avec eux quand je suis arrivé en Alsace.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené vers la franc-maçonnerie, en fait ?
Ah ben ce soir, lors de cette émission, je vais peut-être beaucoup parler de ma femme. Pourquoi ?
Oui, très bien.
Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a présenté mon parrain à l'époque, pensant que c'était quelque chose qui allait tout à fait me convenir. Elle me connaissait très bien. Et donc c'est un peu grâce, toujours à cause d'elle, que j'ai rencontré mon parrain qui m'a orienté vers une loge, la grande loge.
On va revenir tout à l'heure sur la franc-maçonnerie. Mmh. C'est quoi tes passions, en fait ? Qu'est-ce qui te transporte au-delà de la franc-maçonnerie, qui te prend énormément de temps, j'imagine, et d'énergie ? Mmh. As-tu d'autres passions qui sont peut-être...
Oui, la musique, la moto, mmh. La boxe.
Ah bon.
La boxe.
Ah tiens, je la prends. Non, je la prends pas. Oui. Évidemment, tu parles beaucoup de la boxe. Hein.
Oui.
Tu poses des vidéos avec beaucoup d'humour, hein, beaucoup d'autodérision, hein, je trouve. T'es un hyperactif, on peut dire ça ?
Non, je suis pas un hyperactif. Je le deviens tout doucement. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est quelque chose qui m'arrive depuis peu. Et j'avais un besoin de trouver une activité qui puisse me permettre de me défouler. Et encore une fois, grâce à ma femme aussi, puisque c'est un cadeau, c'est parti d'elle. Hein. J'ai trouvé cette activité et aujourd'hui, je suis à fond dedans, on va dire ça comme
d'accord,
ça.
D'accord. Tu es donc en Alsace depuis longtemps. Mm. Tu voyages beaucoup ? Tu as beaucoup de...
Alors je voyage...
Parcouru le monde un peu ?
J'ai beaucoup bougé, oui. Mais je ne peux pas dire que je suis un grand voyageur. Mais grâce à la franc-maçonnerie, je voyage pas mal.
Ouais, ouais. Ouais. Et c'est pour cela que je te pose cette question-là du voyage. Y a-t-il à Strasbourg, dans cette région rhénane, y a-t-il, d'après toi, une spécificité que tu ressens ici et que tu ne trouves pas ailleurs, qui peut peut-être, qui a fait que tu te sentais bien et qui te permet peut-être de porter un regard différent que tes autres frères et...
Alors, pour être très franc, quand je suis arrivé en Alsace en 84, je suis donc, tu l'as compris, un méditerranéen, pour moi, les débuts étaient assez compliqués. Je suis arrivé dans une région qui était où quand on vient du sud, on dit que nous allons dans l'est et que là, la rigidité apparaît. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était très dur. Mais au bout de quelques années, je m'y suis tout de suite adapté. Et les Alsaciens sont des gens, des frères, on va appeler ça comme tu le souhaites, peu importe. Hein, des gens attachants et on s'y sent bien. Alors, il faut supporter le temps, c'est vrai, mais une fois qu'on est ici, très honnêtement, tout se passe bien. Et voilà.
Bien sûr. J'ai vu que tu avais des tatouages sur les bras.
Oui.
Tu peux m'en parler ?
Alors, oui, bien sûr, ça aussi, c'est assez récent, je dirais. Mais je me suis dit la chose suivante, je me suis dit à mon âge, à 58 ans, ça faisait un petit moment que j'y pensais, et j'ai voulu symboliser par beaucoup de tatouages, parce que j'en ai fait quand même quelques-uns, hein. Toute la symbolique un peu de ma vie. Donc je ne vais pas maintenant la développer, mais chaque tatouage a vraiment une signification bien précise.
D'accord.
Vraiment. Ce n'est pas juste de la déco.
D'accord. Un ou deux symboles ?
Ah ben, bien sûr, un peu de symboles maçonniques. Hein.
Oui.
On va reprendre ça. Des symboles sur mes origines. Mm-hmm. Des symboles sur l'histoire. Mm-hmm. Voilà, il y a un peu de tout. Puis d'autres que je ne dévoilerai pas, qui sont personnels.
Quel est ton modèle en politique ou dans le monde du sport, dans le monde de la boxe, as-tu un modèle qui t'a vraiment totalement inspiré, transporté tout au long de ta vie ?
Le modèle serait plutôt musical, je dirais. Je serais plutôt musical. J'étais très jeune, accroché à la musique punk, rock, new wave. Et j'ai été vraiment dans cette période quelqu'un de très, très admiratif de tous ces groupes. Et après, avec le temps, non, j'ai pas un personnage. Je peux pas dire que j'ai un personnage où je pourrais m'arrêter. D'accord. Je suis très, très, très éclectique, comme dans la musique d'ailleurs, comme dans la musique.
D'accord. Alors, on va parler un petit peu de. On va parler maintenant de la franc-maçonnerie. Mmh. Quelles sont les valeurs mmh. profondes que porte la franc-maçonnerie et qui pourraient aujourd'hui faire réfléchir nos auditrices et nos auditeurs qui souvent sont un peu perdus aujourd'hui, qui n'ont plus de représentants auxquels ils peuvent se raccrocher. Mmh. Quelles sont les valeurs fortes qui vous permettent à vous de constituer une collectivité, une communauté très forte? C'est quoi ces valeurs?
Alors, je suis content, les motos qui passent, ça me laisse le temps de réfléchir, mais...
Alors, on est au Café Brandt, je ne l'ai pas précisé en début, excuse-moi, je te coupe. On est au Café Brandt, mais on est sur la terrasse du Café Brandt. On est sur la terrasse du Café Brandt le 13 février, en plein hiver, et il commence à faire un peu frisquet, mais c'était une tellement belle journée ensoleillée. À toi, excuse-moi.
Alors, les valeurs de la franc-maçonnerie... Pour faire simple, c'est la fraternité, bien évidemment, l'humanisme, la fraternité, le travail sur soi, l'amélioration de la personne par son travail personnel. J'y tiens, c'est un travail personnel. On a tendance à dire que la franc-maçonnerie agit tous les jours dans la société. Ce n'est pas le cas d'un frère de la Grande Loge nationale française. Un frère de la Grande Loge nationale française, il travaille sur lui. Son objectif, c'est de s'améliorer lui. Ah oui. Et déjà... S'il fait ce travail important, naturellement, son entourage fera partie de cette amélioration. Voilà.
D'accord. C'est un questionnement donc permanent.
Oui, permanent, permanent.
Une remise en question permanente.
Permanente, d'accord. Permanente.
Est-ce qu'il y a une sorte de est-ce qu'on peut se raccrocher à ses frères lorsque justement peut-être on a des errements ou des etc. Ou c'est une famille, c'est une solidarité.
Alors c'est oui, c'est une grande famille. Alors, c'est un grand terme, hein, mais c'est une grande famille. Il y a une fraternité efficace quand il y a des moments difficiles, mais une fraternité respectée. C'est-à-dire que on n'aide pas son frère à n'importe quel... il faut que ça soit respectueux. On se respecte parce qu'on est respecté. Tu comprends ce que
tout
je veux
fait.
Dire.
C'est voilà. Une notion un peu de droit et de devoir. Hein.
Oui, ah ben on a beaucoup de devoirs, plus que de droits.
Alors là, on touche à une question qui, moi, me passionne et m'interpelle toujours. Sur mon compte Facebook, j'écris assez souvent là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une crise de société parce qu'il n'y a plus de devoirs. On a des droits. Le législateur rajoute tous les jours des droits à tous les niveaux, à tous les étages, et sans souvent dire aux gens aussi, mais attendez, pour avoir un droit, il faut aussi avoir un retour pour la société, pour la collectivité, et c'est vrai dans plein de domaines. J'en ai parlé encore la semaine dernière avec Frédéric Biry, pour les bénéficiaires du RSA. Je lui ai demandé s'ils avaient des devoirs en contrepartie de l'allocation qu'ils percevaient. Sa réponse était très intéressante et j'invite les auditrices et auditeurs à écouter sa réponse sur le podcast de la semaine dernière. J'aime bien cette notion de devoir. Quels sont les principaux devoirs que vous demandez à un frère pour être franc-maçon?
Alors, à la Grande Loge française, il y a une règle en 12 points que je ne vais pas développer, hein, vous la trouverez en tapant sur Google simplement, hein. Mais un des devoirs principaux, c'est des devoirs de moralité, un devoir de respect envers ses frères et ses sœurs en humanité, c'est-à-dire tout le monde, même si nous sommes une obédience masculine, nous avons un devoir de respect sur nos frères et nos sœurs en humanité, et bien évidemment, en interne chez nous, nous devons de respecter ces devoirs à la lettre et surtout cette règle en 12 points. Alors je ne vais pas la développer encore une fois comme je l'ai dit, mais il suffit de la trouver sur internet et vous aurez exactement...
Et j'imagine que ces 12 règles sont structurantes
pour
les personnes.
Oui, tout à fait.
Elles sont structurantes.
Tout à fait.
C'est
une colonne vertébrale, tout à fait.
Qui permet aux gens d'avancer. La franc-maçonnerie, c'est aussi une croyance.
Alors, c'est là que c'est toujours un peu compliqué. La France a cette particularité où il y a les multi-obédiences. multi-obédience. Mais il y a une maçonnerie ce que nous appelons régulière et reconnue, qui représente environ 80 à 90% de la maçonnerie mondiale.
Mondiale,
je dis bien. Hein, et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi
c'est des chiffres,
hein, c'est factuel. Oui, on demande d'être croyant au grand architecte de l'univers, plus particulièrement donc en Dieu, pour pouvoir être initié en franc-maçonnerie régulière reconnue. En France, il y a cette particularité où il existe d'autres obédiences amies, je dis bien amies, hein, il n'y a aucun problème, où là, il n'y a pas d'obligation pour certaines obédiences d'être croyant.
La Grande Loge de France, celle-là, elle n'exige pas...
Alors non, le Grand Orient de France n'exige pas.
Pardon.
Voilà, le Grand Orient de France, par exemple, n'exige pas la croyance en Dieu. C'est ce qu'on appelle une obédience libérale. Il y a des frères chez eux qui croient en Dieu et d'autres qui n'y croient pas, donc libre à eux, bien évidemment. Hein. Encore une fois, c'est une obédience amie. La Grande Loge de France demande la croyance en Dieu. Alors, elle a une autre demande sur de la symbolique, hein, qui est encore différente de la nôtre. Mais je ne vais pas la développer, je laisse aux frères...
Tu disais qu'il y a une spécificité française. Je veux redire ce point-là. C'est qu'il y a en France une multiplicité d'obédience.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Non. En Angleterre, il me semble...
Pour donner un exemple, pour nous, hein, la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est la maison mère, pour nous, hein, bien évidemment, la maison mère de la maçonnerie, il y a 250 000 frères et il y a une seule obédience qui travaille sur les mêmes principes que les nôtres en France. Hein, et la plupart des pays au monde, il n'y a pratiquement qu'une seule obédience, à chaque fois régulière et reconnue. Il arrive qu'une petite structure ou une autre obédience se crée dans un pays, mais en règle générale, tu retrouves toujours une obédience régulière et reconnue dans un autre pays. Nous sommes reconnus par plus de 200 pays.
Ah oui.
Il y a 200 grandes loges, 200 pays.
Il y a combien d'obédiences en France ?
En France, au moins 150.
150 ?
Au moins 150. Bah, alors, je reviens sur la particularité, il y a les 4-5 grosses obédiences, hein, qui sont la Grande Loge de France, le Grand Orient de France, la Grande Loge Féminine de France, le Droit Humain, la GLAMF, qui est une structure qui a été créée il n'y a pas longtemps, suite à une scission d'ailleurs de la Grande Loge nationale française, la Grande Loge, ce qu'on appelle nous la GLTSO, et après, il y a des micro-obédiences qui se sont créées par des scissions. Des frères X qui ont quitté certaines structures et qui ont créé leurs propres obédiences. Hein. Il suffit d'aller à la préfecture
et de demander. Quelle est ton explication ?
Ah ben, je ne sais pas si je peux être franc, mais il y a aussi malheureusement des frères qui n'ont pas pu monter dans des structures et qui ont préféré créer des structures à eux.
Un peu par ambition ?
Oui, je pense, un petit peu.
Il y a quand même un parallèle qu'on peut faire. Hein. Avec l'ensemble de la société française, où en fait il y a une multiplicité de création de partis politiques, de syndicats, de mini-syndicats, mais aussi de chapelles religieuses. Il y a beaucoup de, par exemple, l'islam de France a beaucoup de mal à se structurer. Il y a de plus en plus de chapelles aussi israélites qui se créent. Aux grandes dames, évidemment, je pense peut-être de l'intérêt collectif, hein, des différentes communautés. Et c'est une spécificité qu'il fallait, je pense, préciser, parce qu'il y a en effet, je pense, un flou un peu en France. Ça crée un flou, en fait, sur la maçonnerie. On a parfois du mal à savoir, en effet, qui vous êtes, parce que le message est un peu troublé par cette multiplication.
D'où, tu l'as bien compris, Daniel, mon travail sur les réseaux sociaux, depuis 2008 ou 2009, où là, j'étais un des grands maîtres provinciaux de la Grande Loge nationale française à ouvrir d'une manière simple sur les réseaux sociaux, de manière à ce qu'on essaye de comprendre un petit peu nos spécificités, tout en respectant les autres obédiences, que les choses soient claires. Hein,
Et en effet, tu es, on peut dire, responsable de la communication.
Je suis un des responsables. Voilà.
D'accord. Et ça a été difficile pour tes frères d'accepter cette démarche de communication, vraiment très forte.
Oui.
Tu vas très loin. Il y a les mots que tu utilises, mais il y a aussi les photos, les vidéos
qui sont
très parlantes, très fortes. Où on voit vos rituels, on voit vos habits, on voit vos symboles. Peut-on encore parler de mystère de la franc-maçonnerie ?
Alors, c'est la phrase qui est souvent dite chez nous, c'est qu'on n'est plus une société secrète, on est une société discrète. Donc, je me permets de développer ça, surtout sur les réseaux sociaux. Alors, je ne dévoile rien de ce que je ne peux pas dévoiler. C'est pour ça que tu remarqueras souvent que mes termes sont toujours très réfléchis. Les photos aussi sont souvent très réfléchies, même si les décors apparaissent. Souvent, on ne voit jamais les visages, sauf si un frère venait à me dire, et encore, même je m'interdis malgré tout de le dévoiler, puisque ça, c'est une interdiction formelle dans nos règlements, hein, donc je ne dévoile personne. Mais je tenais à défantasmer, parce qu'il y a trop de flou, comme tu l'as dit, sur ce que nous faisons. Donc, par ces moments simples, je les dévoile sans dévoiler vraiment ce que nous faisons.
Est-ce qu'un jour, vous ferez tomber l'anonymat ?
Ah ben l'anonymat, chez nous, c'est assez simple. Hein. Chaque frère peut se dévoiler. D'accord. Il n'y a aucune interdiction. Chaque frère a le pouvoir de dire qu'il est franc-maçon. La seule interdiction, c'est que moi ou n'importe quel frère ne peut pas dévoiler son frère. Ça, c'est interdit.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Oui. Je t'ai demandé de choisir une chanson, une chanson qui te ressemble, qui est importante pour toi. C'est laquelle ?
Alors, j'ai choisi, c'était assez compliqué, parce que comme je te l'ai dit en début d'émission, je suis quelqu'un qui écoute pratiquement toutes les musiques. Hein. Je pourrais aujourd'hui du gangsta rap jusqu'à du rock, jusqu'à du punk, jusqu'à du Airbnb. Enfin voilà, je suis vraiment quelqu'un d'être très éclectique, mais j'ai voulu un petit peu rappeler ma jeunesse par mes goûts liés à un groupe que j'adore qui s'appelle les Stranglers. Donc j'ai choisi European Female, voilà, qui me correspond un petit peu, quelque chose de doux. J'allais pas mettre un morceau de Mozart, peut-être que les gens attendaient ça rapport à un franc-maçon, mais voilà.
Alors, allons-y pour Stranglers et cette très très belle chanson.
Females here.
Alors, nous reprenons l'interview et nous allons parler donc des femmes. Mmh. Hein, c'est une bonne transition avec la chanson. Mais tu l'avais dit juste avant dans tes propos, il y a donc aussi des femmes franc-maçonnes. Mmh. Tu peux en dire quelques mots ? C'est récent ou
Bien
c'est
sûr.
Depuis en fait
Oh non, ça fait une bonne centaine d'années quand même qu'il y a une obédience féminine qui existe. Hein, il n'y a pas de problème. Ou mixte plutôt, puisqu'il y avait le droit humain.
Elles sont mixtes ?
Alors il y a les deux. Hein. Il y a des obédiences féminines et il y a aussi des obédiences mixtes.
Ouais. Mais en Angleterre,
Alors en Angleterre, l'obédience principale est masculine, mais il y a une vieille obédience qui a aussi presque une centaine d'années. Alors j'ai plus le nom exact, j'ai un trou de mémoire, mais il y a une obédience féminine qui travaille, alors qui ne se visite pas avec l'obédience anglaise, mais qui travaille ensemble. Ils ont des liens quand même, hein, ils sont en lien. Hein. Alors mais 80% des sœurs sont françaises.
D'accord.
Hein, dans le monde. Hein.
Et à Strasbourg, si une auditrice veut. Alors oui, si elle veut maintenant s'inscrire ou approcher la loge féminine, ou si un auditeur veut le faire, quelle est la démarche qu'on appelle Alain Bro sur Messenger.
Oui, on peut. Pas plus tard qu'il y a quelques temps, je plaisantais avec une sœur du droit humain d'ailleurs, qui me disait « Alain, tu nous embarques tout le monde ». Alors je plaisantais, j'ai dit « Non, je ne donnerai pas le prénom de cette sœur, mais elle se reconnaîtra ». Et dernièrement, sur LinkedIn, puisque je communique aussi sur LinkedIn, j'ai une profane, hein, puisque c'est le terme, qui m'a contacté en me disant qu'elle était intéressée par la franc-maçonnerie. Alors je lui ai expliqué que nous étions une obédience masculine et que je ne pouvais pas l'intégrer chez nous, mais je l'ai orientée vers cette sœur du droit humain, et pas plus tard qu'il y a deux jours, elle m'a fait un petit message en me disant qu'elle avait été contactée et qu'elle va donc...
Donc à Strasbourg.
À Strasbourg.
Donc c'est super.
Voilà.
Juste, pas beaucoup, mais quelques chiffres sur la franc-maçonnerie. Vous êtes combien de frères et sœurs ?
Alors, notre obédience, la Grande Obédience française, on est environ 33 000. Le Grand Orient, une cinquantaine de mille. La Grande Loge de France, aux entours de 30 000. On doit être en tout à peu près entre 150 et 175 000 en France.
D'accord. La franc-maçonnerie date de combien de temps, en fait ?
Elle existe depuis très longtemps, mais la date, on s'arrête sur une date créée par la Grande Loge de Londres en 1717. Hein, voilà, ça c'est la date officielle. Sachant que si tu vas en Écosse, par exemple, à Édimbourg, puisque les Écossais et les Anglais se tirent un peu la bourre, hein, je vais parler très simplement, il y a des dates 1640 sur des loges existantes. Voilà.
Et est-ce que tu penses que ton travail sur la communication que tu fais maintenant vraiment de fond, hein, c'est vraiment... une vraie campagne de communication, en fait, d'ouverture. Alors d'abord, est-ce que tu l'as fait pour recruter ?
Non, très honnêtement, non. Mon principal souhait, c'était vraiment de défantasmer. Je sais que le terme, il est un peu... Mais c'était de défantasmer, parce que tout ce que je lis sur les réseaux sociaux me gêne.
Bien sûr.
Donc je voulais vraiment défantasmer.
Oui. Voilà. Je pense que c'est d'ailleurs la seule et unique solution pour défantasmer.
Oui.
C'est de parler de soi-même. Exactement. Et de montrer qui on est. C'est la seule et unique manière. C'est vrai d'ailleurs pour... Toutes les communautés. J'ai lu sur un de tes articles que cette phrase très, très chouette. Pour le public, un franc-maçon sera toujours un vrai problème qu'il ne pourra résoudre à fond qu'en devenant maçon lui-même.
Oui, parce que elle dit tout, cette phrase. C'est-à-dire que la plupart des gens qui me lisent ou qui lisent des choses sur la franc-maçonnerie ne pourront jamais vraiment découvrir qui on est. La seule solution, c'est effectivement d'être initié.
C'est de venir,
puisque là, on dévoilera, entre guillemets, les secrets.
Le parcours de recrutement est long ?
Aujourd'hui... Quand le travail est bien fait en loge, je pense qu'en 6-8 mois, on peut être initié s'il n'y a pas de problème particulier, je dirais.
Bien sûr. Les élections présidentielles approchent.
Oula, oui.
Y a-t-il parmi les candidats des francs-maçons ?
Alors, à la Grande Loge nationale française, nous ne parlons pas politique et religion en loge. Hein. Après, bien évidemment, nous avons des hommes politiques chez nous qui font ce qu'ils ont à faire à l'extérieur des loges. Donc nous ne pouvons pas faire campagne ou en interne, hein, toujours
d'accord.
pareil.
Hein. Y a-t-il eu, alors peut-être Y a-t-il eu des présidents francs-maçons ou c'est public et
Public, oui. Alors en France, très honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Aux États-Unis, beaucoup, hein, oui. Parce que la plupart l'étaient. Hein. Mm-hmm. Mais en France, très honnêtement, j'ai pas l'information.
Est-ce que tu dis que vous ne parlez pas politique, mm-hmm. mais vu la situation politique actuelle, mm-hmm. quand même très particulière, mm-hmm. où il y a quand même de plus en plus de violence. Avant, tu l'as dit, tu lis des choses parfois oui. très dures hein, sur la franc-maçonnerie. Évidemment, il y a une forte montée de l'antisémitisme, du racisme. Y a-t-il d'abord des agressions contre les francs-maçons et y a-t-il une recrudescence de ça ? Mmh.
Alors, il y a quelques faits qui se passent, on peut le voir de temps en temps. Il y a eu quelques temples, entre guillemets, saccagés. Il y a quelques attaques sur les réseaux où on met francs-maçons, oui. parce qu'on a un mélange. On a un mélange de complotisme, de personnes qui se trompent et qui pensent que les francs-maçons
évidemment, sont responsables.
Le fameux
de tout,
complot judéo-maçonnique exactement. Qu'on entend. Alors si moi, petit Alain Brault, j'étais un comploteur, je serais milliardaire. Ouais. Je suis évidemment. Dans la hiérarchie numéro 3 et ça voudrait dire qu'il n'y aurait que le 1 et le 2 qui savent vraiment ce qui se passe.
Dans la hiérarchie nationale.
nationale.
Et les... Et donc, ma question est, est-ce qu'un maçon n'a pas l'obligation morale, mmh. éthique, d'aller voter aux élections, d'être celui qui refuse l'abstention, ce que moi, personnellement, j'estime être une lâcheté. Mmh. C'est facile de ne pas aller voter et après de pleurer sur les conséquences. Y a-t-il un devoir qui est un message interne, qui est porté ou non ?
Alors non, on ne va pas en interne demander aux frères d'aller voter puisque nous ne parlons pas politique et religion. Mais par contre, on rappelle les devoirs, donc les devoirs de citoyens et d'hommes libres et donc naturellement, on ne va pas aller demander de voter. Mais un exemple, c'est que lors de la GAP, c'est-à-dire du repas après notre tenue, la première santé qui est faite, c'est au président de la République, quel qu'il soit, qui protège la franc-maçonnerie. Donc on rappelle à tous les frères présents qu'il y a ce devoir de respect envers le président de la République, quel qu'il soit, que les choses soient claires, on ne le nomme pas. Hein.
Ça rappelle voilà. la prière qui est faite à la synagogue à tous les Shabbats, qui est une prière faite pour la France. Mmh. Il a remercié de nous accueillir. On arrive à la fin de l'émission déjà, ça va très très vite. est-ce que tu as un message à passer à nos auditrices et nos auditeurs ? S'il y avait un message à passer, alors, toi, homme de communication.
Un message maçonnique ou un message maçonnique, en général ? Un message maçonnique. Ben, je dirais surtout aux jeunes, mais aux jeunes, pas les plus jeunes, mais aux jeunes, de s'y intéresser. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes sont dans leurs activités et oublient un petit peu la spiritualité et le monde du devoir. Donc je leur dirais, n'hésitez pas à nous contacter et on pourrait organiser chez nous, à Strasbourg ou ailleurs bien évidemment, hein, des rencontres où on leur explique qui on est vraiment. Voilà.
Tout à fait. C'est un travail pédagogique.
Exactement.
Qui est là aussi très important. Hein, c'est que pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter contre les fausses idées, la seule manière, c'est d'aller vers les gens et avant tout vers les jeunes. Alors, on va terminer l'émission avec donc Sacha qui va te poser une question. Mm-hmm. Sacha qui a 12 ans.
Ah. Alors, y a-t-il des francs-maçons enfants ?
Alors, il n'y a pas réellement de francs-maçons enfants, puisqu'il faut être majeur pour entrer en franc-maçonnerie. Mais il y a des systèmes que nous avons chez nous, plus particulièrement, qu'on retrouve plus particulièrement aux États-Unis, qui s'appellent les deux mollets, où là, nous intégrons des jeunes, des très jeunes, qui on va dire, une pré-maçonnerie, où nous les préparons pour devenir maçons le jour où ils deviennent majeurs. En France, nous avons ouvert, ça s'appelle les chapitres deux mollets. Pour ceux qui veulent aller chercher. C'est une structure qui existe aux États-Unis depuis une centaine d'années. D'ailleurs, je discutais dernièrement avec un frère et une sœur qui me disaient « Moi, les jeunes, ils sont trop jeunes pour rentrer chez nous. » Mais c'est aussi une méconnaissance du système maçonnique, parce que ça veut dire nous, depuis 100 ans, nous intégrons ces jeunes.
Ouais, ouais.
Donc, mes amis, mes sœurs, mes frères, regardez sur Internet, tapez deux moulets, vous verrez qu'il y a aussi des très jeunes qui sont chez nous.
Super. Alain, je te remercie beaucoup.
C'était
très sympa, très instructif. Je me permets de vous annoncer déjà l'émission suivante, qui va être avec Élie David, président de l'Union juive libérale de Strasbourg, l'UJLS. Nous allons parler du judaïsme libéral. Et une autre émission avec la préfète Josiane Chevalier, que je remercie à ce micro pour la suivante. Voilà, merci beaucoup et
merci
puis à la semaine prochaine.